Bon content.
Othman Mama, désigné meilleur joueur de ce tournoi, la Coupe du Monde masculine, des moins de 20 ans. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir écouté.
Radio G.
101.5 FM.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Lundi 20 octobre 2025, et oui, on est au cœur de l'automne, les citrouilles arrivent, et puis il y a d'autres choses oranges qu'on voit un petit peu partout en ce premier jour des vacances scolaires, en orange également, ce sont les ouvriers de chantier, voilà, parce qu'on a tout un tas de chantiers qui arrivent sur la route, on en profite qu'il y ait moins de circulation pour refaire les trottoirs, donc faites attention à vous et à eux, bien évidemment. On n'est pas là pour parler de ça ce soir, dans cette émission qui va vous emmener au cœur des agitations locales qui continuent à animer le territoire, même pendant les vacances. Demain, on sera avec le CCJC, par exemple, avec la nouvelle voix du CCJC qui nous accompagnera tout au long de la saison. Lucie, mercredi, on sera du côté de Villemoison avec l'écolieu de la Chancelière. Et jeudi, toujours en culture avec nos amis du Quai. Ce soir, c'est avec toi qu'on a préparé ça. Sidonie, bonsoir.
Bonsoir.
On va prendre un petit peu de hauteur, on va aller dans le ciel ou observer le ciel en tout cas. On parle de quoi ?
On va parler d'OVNI.
Et oui, puisqu'il y a les 4e rencontres ufologiques de Montsoreau ce week-end, les 25 et 26 octobre. Alors pour en parler, on va être bien accompagné, on sera avec Bénédicte Vallée qui a rejoint l'équipe de ces grandes rencontres ufologiques, mais qui est aussi animatrice d'Un Autre Regard sur Radio G, un mardi sur deux à 21h. Et surtout, on sera accompagné de monsieur, j'ai perdu son nom, Frédéric Brochard, voilà, président d'OVNI Anjou, qui co-organise avec TUFO cet événement dont on va s'intéresser ce soir dans Topette qui sera ponctuée des charabias d'Aurélia tout à l'heure à 18h30 et conclue avec Café Chololo et Topette qui démarre pour cette nouvelle semaine.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Une nouvelle voix aussi qui rejoint l'équipe ce soir. On est accompagné d'Ivana pour faire un point sur l'actu à Angers et dans le département. J'ai l'info, l'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire sur Radio G.
Ça y est, en travaux jusqu'à la fin de l'année, la cathédrale Sainte-Maurice à Angers va connaître une phase décisive, celle de son extension. Place maintenant à la construction d'une galerie contemporaine qui sera présente au pied du monument. Le projet a débuté avec la pose des archivoltes. Donc ce sont de grands arcs cintrés qui viendront fermer les 5 portes en béton armé de l'entrée de la galerie. Livrés en modules, ils sont installés un à un sur des cintres en bois. Coût total, 5,5 millions d'euros financés par l'État. Du côté de la gastronomie, plusieurs restaurateurs de Maine-et-Loire sont à l'honneur dans l'émission télé « La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi » diffusée sur M6. À partir du 20 octobre, et ce, durant 4 jours, ils s'affronteront chaque soir à 18h35 face à des concurrents des Pays de la Loire. La semaine se clôturera vendredi par la grande finale régionale. Côté sport, début de saison compliqué pour les joueurs angevins. Au total, 3 défaites consécutives pour ces 3 derniers matchs. Samedi dernier, Angers a reçu à domicile l'AS Monaco. D'abord mené 1-0 par les Monégasques, les Angevins ont réussi à se réveiller grâce à l'attaquant Chérif. Il a inscrit le but de l'égalisation quelques minutes avant la fin du match.
J'ai l'info sur Radio G. Merci beaucoup Ivana, on se retrouve dans 2 semaines avec toi pour un nouveau point sur l'actu, mais le nouveau point sur l'actu on le retrouvera aussi demain à partir de 18h10 dans Topette. Alors normalement on annonce ce week-end les 25 et 26 octobre, c'est la 4e rencontre ufologique à Montsoreau, mais puisque nous sommes avec deux des personnes qui participent à l'organisation de cet événement, on va plutôt les accueillir tout de suite maintenant puisque ce sont nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Bénédicte.
Eh bien bonsoir.
Ah, une voix qu'on connaît ici sur le 101.5
FM. J'espère.
Animatrice d'Un autre regard, un mardi sur deux à 21h. Tout à l'heure tu pourras nous rappeler un petit peu de quoi ça parle, même si c'est un petit peu dans le titre, ouais. Avec ces questions paranormales. Tu as fait un pas de côté, enfin tu as été un petit peu voir un autre sujet puisque tu as levé les yeux vers le ciel et tu es venu accompagné de Frédéric Brochard. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Président d'OVNI Anjou. Pareil, tout est dans le nom, j'ai envie de dire. OVNI Anjou qui co-organise avec TUFO, une autre association qui s'intéresse aux ovnis mais du côté de la Touraine, qui co-organise donc ses quatrièmes rencontres ufologiques de Montsoreau ce 25 et 26 octobre à Montsoreau. J'imagine. On va pouvoir parler du coup de cette rencontre, bien évidemment, de ces rencontres, de la thématique autour du nucléaire, du parrain également, qui est Monsieur Jacques Vallée. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais avant tout ça, avec Sidonie, on avait plein de questions pour définir déjà les termes qu'on va pouvoir aborder ce soir, n'est-ce pas Sidonie ?
Oui, tout à fait. Car d'abord, qu'est-ce qu'un ovni ? C'est la question qu'on se pose tous.
Ah, la bonne question.
Frédéric, peut-être.
Bon, c'est un acronyme qui signifie objet volant non identifié. C'est issu de l'acronyme anglais UFO, Unidentified Flying Object.
Donc en fait, quand on parle d'ufologie, on pourrait aussi parler d'ovnilogie, d'une certaine façon.
C'était la terminologie qui était prévue au départ, mais bon, le terme n'étant pas très beau à l'oreille, ovnilogie. Bon, l'ufologie semblait plus adapté, effectivement, c'est celle qui a été retenue dans ce milieu-là.
Donc objet volant non identifié, voilà déjà pour la définition d'ovni, et donc UFO, la version anglaise. Sidonie, il y a d'autres termes, je crois, hein.
Bah oui, le terme extraterrestre, qu'est-ce que c'est ?
Extraterrestre, oui, c'est ce qui est en dehors de la Terre.
Tout simplement. Et est-ce que ça a un lien avec les ovnis ou pas ?
Ah bah là, c'est les grands mystères.
Alors, c'est les grands mystères. Hein.
OVNI ne peut pas dire forcément extraterrestre. La réciproque n'est pas forcément vraie, donc c'est tout. C'est ça, effectivement, il y a beaucoup de choses dans le ciel qui ne sont pas extraterrestres. Si c'est non identifié, c'est qu'on ne sait pas. Donc il ne faut pas pour autant en déduire que E.T. nous rend visite et qu'il a plus envie de rentrer à la maison, que finalement il s'installe chez nous. Il faut couper un peu court au raccourci, quoi.
Il existe une science qui s'appelle l'exobiologie, qui a pour objectif de chercher d'autres planètes qui pourraient être habitables à travers à la fois l'univers, la Voie lactée. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités à travers la création de la galaxie, de mondes habitables, hein, et avec des formes de vie complètement différentes peut-être de la nôtre, mais c'est une hypothèse de travail qui est en train de tenir le coup, et notamment par rapport à contre l'hypothèse de Fermi, où sont-ils ? Mais ils sont quelque part, mais où et à quelle distance ?
Et puis sous quelle forme ?
Et sous quelle forme ?
On a un petit peu l'idée de l'extraterrestre, le petit gris avec ses grands yeux noirs en amande, pas de nez, un peu à la Voldemort. Et puis, mais en fait, ça se peut que ce soit des formes de vie qui soient totalement différentes, qui soient bactériennes, qui soient autre chose. Donc il faut un petit peu sortir de ces idées reçues en se disant que bah voilà, c'est pas forcément deux bras, deux jambes et puis une petite tête, quoi.
Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, finalement, l'être humain a tendance à être anthropocentriste, tout centré autour de l'être humain. Il faut savoir que l'être humain est un être vivant, hein, qui pense également aussi, mais autour de nous, il y a toutes les espèces, fonctionnent différemment, mais font partie du même monde. On est différent, mais on n'est pas supérieur à une fourmi ou supérieur à un arbre.
Alors Sidonie, est-ce qu'on a une chronologie ou pas de l'apparition de ces ovnis, justement ?
Bah, je connais l'affaire Roswell de 1980, mais est-ce qu'il y a déjà eu des apparitions d'ovnis ou quelque chose comme ça avant dans l'histoire, ou c'est la première ?
Alors, juste pour rebondir, l'affaire Roswell date de 1947.
Ah, pardon.
Donc juillet 1947, où selon l'armée américaine, une soucoupe volante aurait été récupérée et il y aurait eu potentiellement des entités qui auraient été récupérées.
Ok.
Les fameuses vidéos qu'on peut trouver sur Internet, ou d'autopsie d'aliens, des choses comme ça.
Donc ça, c'est ce qui marque le plus dans l'imaginaire collectif.
Ah, oui.
Quand on parle à la fois d'OVNI qui se serait écrasé, donc un objet qui viendrait du ciel, qui s'écrase quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique, et en même temps d'un extraterrestre qui était dans une soucoupe volante.
C'est ça, d'un vol habité finalement, et piloté. Donc c'est vrai qu'un peu dans l'imaginaire, c'est totalement l'affaire Roswell, quoi.
Alors sans pour autant définir, déterminer de quoi il s'agit véritablement. L'affaire est complexe, mais le nombre de documents, de témoins, valide l'hypothèse effectivement qu'un objet, quelque chose d'inconnu, se serait crashé au Nouveau-Mexique, à Roswell, en 1947.
Y en a-t-il eu avant cette affaire ou pas, Frédéric ?
Alors, les spécialistes dans ce domaine valident le fait qu'il puisse y avoir d'autres crashs bien avant, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et un petit peu avant aussi, notamment en Espagne et aux États-Unis fin 19e siècle. Enfin bon, il y en aurait eu plusieurs.
Et puis il y a pas mal de chercheurs aussi, certains écrivent des livres, accréditent l'idée que finalement on a des visites depuis la préhistoire, que quand on remonte un peu le fil, on peut avoir des choses comme ça. On pense tous à des bas-reliefs qu'on aurait trouvés dans certaines civilisations qui feraient totalement penser effectivement à des objets volants, à des choses comme ça. Et puis même dans certaines religions, que ce soit en hindouisme, vous avez effectivement des dieux qui se déplacent dans des genres de petits... soucoupes, petites nuages un peu métalliques qui font penser effectivement à des soucoupes volantes. Donc c'est vrai qu'on s'interroge un peu sur la façon dont on percevait les visites finalement.
Sur la nature effectivement de tous ces types de phénomènes, sachant qu'il faut faire attention au niveau de l'interprétatif. On n'est pas dans les mêmes cultures, dans les mêmes civilisations, ce qui fait la complexité au fait de pouvoir valider de manière formelle le fait qu'il puisse y avoir eu des visites antérieures.
Ben, alors, c'est compliqué, ouais.
On sait par exemple, si on part dans la fiction, que dans Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal. Voilà, la fiction considère que la pyramide Maya est en fait comme un garage à soucoupes volantes. C'est de la pure fiction ou ça s'appuie sur des hypothèses qui existent, que ces pyramides-là auraient pu être en lien avec... On a aussi ce truc-là de dire que...
Bah, un peu comme dans Stargate aussi, hein, où finalement les pyramides égyptiennes sont pareil, des docks de stationnement de soucoupes.
Bon, ça reste de la spéculation scientifique. Une chose est sûre, par contre, c'est qu'au niveau de la crypto-archéologie, on est confronté à des civilisations qui avaient des connaissances considérables pour lesquelles on a... Pour l'instant, nous n'avons pas d'explication rationnelle quant à la manière dont ils ont pu réaliser un certain nombre de documents avec la technologie dont leur prêtent les archéologues actuellement.
Est-ce que vous avez d'autres exemples connus de manifestations comme ça, dans le monde?
Ou en France?
Ou en France aussi.
Il faut savoir que le phénomène OVNI touche tous les pays du monde. Depuis très longtemps, toutes les cultures sont confrontées à ce genre de phénomène. Et notamment, bah, en Anjou, nous ne sommes pas oubliés par les manifestations multiples qui s'y manifestent depuis plusieurs années. Bon, moi j'ai compté depuis les années 90, on a pu recenser, je crois, plus d'une centaine de cas d'observation pour lesquels nous n'avons aucune explication rationnelle, scientifique.
Recenser, alors c'est un recensement par procuration de témoignages, ou alors vous-même, toi Frédéric et toi Bénédicte, avez pu être témoin de choses qui ont pu alimenter ce recensement du coup et cette interrogation autour de qu'est-ce que c'était un OVNI?
Moi non, je vois des trucs bizarres tout le temps. Moi, je vois plutôt les fantômes, des trucs comme ça. Après, moi, je m'interroge toujours sur, finalement, quand on lit un petit peu les cas, que ce soit de l'ufologie, que ce soit le paranormal, que ce soit des contes, par exemple, les chasses célestes, les choses comme ça, qui remontent dans le temps. En fait, on s'aperçoit, ou même les apparitions mariales, qu'il y a des points communs. Des fois, les gens décrivent, finalement, les mêmes phénomènes. Lumière éblouissante, des sensations un peu étranges. Donc moi déjà, c'est compliqué. Enfin, le phénomène, il est multiple de toute façon. Il n'y a certainement pas qu'une source. Mais j'ai plutôt l'impression qu'à travers les époques, à travers les progrès technologiques, bah, les phénomènes, finalement, ils s'adaptent. Et puis, bah, y a nous aussi, on a notre façon de voir qui est différente. On a notre culture qui est différente. On a aussi les religions qui s'en mêlent. Donc tout ça fait que finalement, est-ce que ça ne serait pas des fois le même phénomène, mais qu'on perçoit un peu différemment? Et suivant, si on est plus croyant d'un truc ou d'un autre, on met une étiquette fantôme, une étiquette extraterrestre, une étiquette visite mariale, enfin voilà. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'effectivement des fois c'est les mêmes critères en fait. Donc,
tu serais plutôt sur le sensoriel du coup, Bénédicte?
Ouais, il y a certainement des rencontres physiques, mais tout se passe peut-être pas non plus dans le physique, il y a peut-être des hallucinations ou des choses qu'on nous met dans la tête, qu'on croit avoir vécu. Alors ça veut pas dire que l'expérience n'a pas eu lieu, ça veut dire qu'on l'a pas vécu physiquement, mais peut-être que ça joue sur quelque chose dans la conscience auquel pour l'instant on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas tout de toute façon, médicalement parlant, c'est compliqué, hein, on n'a pas encore une idée totalement à 100% de comment fonctionne notre cerveau de toute façon.
Hein. Alors, Frédéric, oui, je te rejoins, Bénédicte, sur ce point-là. Effectivement, au début, l'ufologie était considérée comme étant plutôt l'hypothèse Tolé-Boulon, purement matériel au sens strict du terme. Et puis ça va, puis on se rend compte à travers les témoignages, qu'il y a aussi une dimension, on va dire, spirituelle, hein, au niveau de l'esprit, qui se manifesterait soit par le biais du phénomène ou par le biais de l'être humain. C'est très complexe. Mais plus ça va, plus effectivement, on se dégage un petit peu du côté matériel pour se dire qu'il y a aussi une autre dimension qui nous dépasse complètement. Et pour juste revenir également sur le fait qu'il puisse y avoir différentes sources, c'est ça qui très complexe dans l'affaire de l'étude des phénomènes d'OVNI, c'est que on ne sait pas s'il y a une source unique qui manipulera un petit peu l'ensemble de toutes les manifestations, ou il y aurait différentes manifestations qui se manifesteraient, que ce soit d'ordre extraterrestre, d'autres dimensions, d'autres spirituels, d'autres, et c'est ça qui fait la complexité de l'étude des phénomènes. Même si nous, au niveau de l'association, on se base sur des faits.
On va en parler justement de l'association dans quelques minutes. Avant tout ça, Sidonie, est-ce que tu as d'autres terminologie, des définitions à éclaircir avec nos invités concernant tout ce qui tourne autour des ovnis?
J'avais une question juste pour éclaircir au plus grand public. Est-ce que l'ovni, c'est vraiment juste l'image d'une soucoupe volante, ou ça peut juste être une lumière, quelque chose comme ça? C'est pour le grand public, pour que tout le monde sache.
Alors, l'ovni, ce sont des ovnis, en fait. Il n'y a pas, voilà, chaque cas, je dirais, il peut y avoir un type d'ovni différent, ou moins perçu différemment, ou qui se mentorait de manière différente. Même si, bon, effectivement, la soucoupe volante, on la retrouve assez régulièrement dans les cas d'observation, que ça soit avec hublot, sans hublot, avec dôme, sans dôme, enfin bon, là.
Des lumières, pas de lumière.
Pas de lumière, oui, voilà, on a tout un bestiaire. Et également, on a des formes triangulaires, hein, noires.
Les tic-tacs, ouais.
On a également les tic-tacs, hein, perçus aux États-Unis.
Des formes de cigares, ouais.
On a des formes cubiques, enfin, disons qu'on a un inventaire à la Prévert. Et c'est vrai qu'effectivement, les gens ont encore cette image de la soucoupe volante, mais on a aussi des formes beaucoup plus complexes, comme lors de l'observation de masse, hein, du 5 novembre 90.
Okay. Ça dépend un petit peu aussi d'où on le voit finalement, cet ovni. Si je vois quelque chose d'en dessous, il est évident que ça se trouve, j'ai une image faussée de la forme réelle de l'objet aussi. Ça dépend un petit peu où je me trouve. Si je vois arriver de loin, c'est peut-être plus facile que si je suis direct en dessous, savoir s'il est carré, rectangulaire, triangulaire, machin. Si tu le vois le dessous, tu vois que le dessous, hein.
Bon, dans tous les cas, j'espère qu'il y a comme sur les poids lourds, la petite étiquette, attention aux angles morts, parce que voilà, faudrait pas qu'on se prenne, que ce soit une soucoupe ou peu importe.
J'imagine mal à expliquer ça à mon assureur.
Oui, ça pourrait être compliqué. On continue à en parler, bien évidemment, et puis on en apprend un petit peu plus sur l'association OVNI en joue, et puis, ces rencontres, ces quatrièmes rencontres ufologiques de Montsoreau. Sur le 101.5 FM, on fait juste un petit détour par un peu de musique et on écoute C'est à propos Alien de Dennis Lloyd. De Dennis Lloyd sur le 101.5 FM.
Topette sur Radio G.
Et ce soir, on est du côté de... On est à Angers, rassurez-vous, on est bien dans le studio de Radio Géo 3 rue de la Rame, mais on va du côté de Montsoreau. Et puis, pour y aller, on passe un petit peu par le ciel, puisqu'on s'intéresse aux 4e rencontres ufologiques de Montsoreau, les 25 et 26 octobre. Pour en parler, on est avec Bénédicte. Je sais pas comment te présenter, en fait. C'est pour ça que j'ai un peu bugué tout à l'heure. Je sais que tu es animatrice d'Un autre regard un mardi sur deux à 21h sur Radio G. Mais par rapport à l'association où venez en jouer, et puis ces rencontres ufologiques, qu'est-ce que tu fais?
Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai rejoint l'association. Donc, je me posais questions d'enquête. Factuellement, je bosse sur le site internet de l'association. L'idée, c'est vraiment de mettre en commun des documentations, des choses comme ça, pour vraiment faire une base documentaire, une base aussi de témoignages. On fait des appels à témoignages sur le site internet aussi, donc ça nous permet vraiment de diffuser un maximum pour vraiment faire connaître la question OVNI, et également quand même pour que les gens qui ont vécu quelque chose, qui se posent des questions, ils aient un lieu où se dire déjà, je suis pas seule. Et j'ai quelqu'un à qui en parler, parce que c'est très compliqué, effectivement. Il y a 20-30 ans de ça, vous pouviez aller à la gendarmerie, dire que vous aviez vu un truc, il faisait un rapport, et voilà, ça allait au GEPAN. Maintenant, c'est compliqué, de toute façon, de dire j'ai vu quelque chose, ou de trouver quelqu'un qui va bien vouloir vous écouter, et pas vous cataloguer.
Donc tu es membre d'OVNI Anjou depuis peu, et t'es venu avec ton président,
c'est ça.
Frédéric Brochard, président d'OVNI Anjou, qui co-organise l'événement avec TUFO. Alors TUFO, c'est
Touraine UFO.
Ah oui, tout simplement. Touraine ufologique.
Voilà. Et TUFO pour le TUFO qui est donc effectivement la pierre de Montsoreau.
Il faut savoir du coup avant OVNI Anjou, c'était AEIOU.
Voilà, l'association d'enquêteurs d'observation des manifestations ufologiques. Enfin, pour résumer.
Et Sidonie a plein de questions par rapport à ce qu'est cette association.
Alors du coup, elle a pour objectif de récupérer les témoignages et d'autres, mais elle a quoi d'autre comme objectif, cette association?
Alors déjà, recueillir les témoignages, c'est quand même la base en fait de la recherche ufologique, comme dans beaucoup de domaines. Hein. C'est sur le terrain qu'on apprend des choses et qu'on découvre les choses. Sur Internet, on découvre peu de choses. Finalement, c'est de la redite ou de la réinterprétation de choses déjà existantes.
C'est de la théorie.
La théorie. Et effectivement, donc on a cet objectif-là, surtout aussi de collecter des informations, faire des recherches de terrain, de documents, et également diffuser l'information, mais sans interprétation. On est là pour montrer de manière objective et factuelle ce à quoi ont pu être confrontés les témoins.
Et puis, c'est pour l'association.
Il y avait rompre l'isolement, tout simplement, des témoins, c'est ça.
Vous êtes combien dans cette association?
On est près de 25 membres triés sur le volet.
C'est-à-dire?
Nous ne prenons pas toutes les demandes. Pour la bonne et simple raison, c'est que certaines, par rapport à l'orientation ou l'interprétatif, ou même l'intérêt de récupération d'informations, ne nous convient pas. Donc, on a un comité de sélection qui nous permet d'accueillir les gens les plus motivés et surtout les gens sérieux.
Sidonie, tu avais même une question justement par rapport au profil des personnes, notamment comme Frédéric, qui sont impliquées dans cette association.
Comment est perçu votre engagement par votre cercle social?
Alors, au début, dans les années 90, c'était compliqué. Hein, là, effectivement, il y avait des moqueries. Monsieur OVNI, on m'appelait Mulder, etc., etc. Mais depuis, avec notamment les rapports du Sénat américain, ça commence à se démocratiser, à savoir que c'est plus rentré dans la vision du monde qui nous environne. Et également, il y a aussi le nombre d'observateurs et de personnes qui ont observé des phénomènes, et de ceux depuis les années 40. Hein. Et ça, effectivement, ça fait un peu la différence. Et puis évidemment, le fait de pouvoir relater les informations à travers notamment les rencontres ufologiques de Montsoreau.
Bénédicte, même question.
Il y a aussi l'essor d'Internet, moi j'ai envie de dire. Hein. Du coup, vous pouvez trouver des vidéos, les gens se questionnent. Vous alliez à la gendarmerie.bar, maintenant vous pouvez poster votre vidéo en ligne, vous pouvez aller sur des forums, donc il y a aussi tout un partage, tous les gens qui mettent un peu leur cellule grise, on va dire, en mouvement sur la question. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est devenu effectivement un peu comme les fantômes de toute façon. Hein. Quand moi je dis que je fais des enquêtes paranormales, on me rit au nez, mais je m'en fous. Mais c'était un petit peu tabou, vous êtes catalogué un peu à la excentrique sur les bords. Et puis maintenant, devant le nombre de vidéos, il y a quand même des documentaires, le nombre de vidéos YouTube, et puis les gens échangent mine de rien sur des forums, des témoignages. Ça aide effectivement à ce que ça soit, on va dire, plus accepté, et puis qu'au moins, on ne demande pas aux gens de croire. C'est bien juste déjà de se poser la question. L'issue, c'est déjà ça. C'est de se questionner sur notre rapport à la réalité.
Sidonie, maintenant que tu as pu découvrir les 4e rencontres ufologiques, justement, quelles questions tu avais à poser à Bénédicte et Frédéric par rapport à à cet événement?
Par rapport à l'événement?
Oui, par rapport à l'événement, qu'est-ce qui t'interroge sur la, peut-être l'organisation? Qui vient à cet événement? Qui, alors, on faut quand même citer le parrain, monsieur Jacques Vallée, astronome, ufologue de renommée internationale, qui a notamment, et ça, il faut quand même le souligner, Frédéric, conseillé un réalisateur.
Oui, Jacques Vallée, en fait, a conseillé, en fait, Heineck, qui était donc un des spécialistes des phénomènes ovnis aux États-Unis pour le film Rencontre du troisième type de Spielberg. Et en fait, la petite histoire, la petite anecdote, qui est plus qu'une anecdote, c'est qu'en fait, Monsoro est cité hein, dans le film, aussi bien dans la version anglaise que la version française, puisque Jacques Vallée s'était inspiré d'un cas dont il avait eu vent en 1966, observation à Monsoro.
Voilà, donc Monsoro est cité dans le film Rencontre du troisième type. Alors là, c'est la quatrième rencontre du troisième type, si, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on y fait, en fait? On propose quoi au travers de cet événement?
Alors, il y a des expositions hein, qui relatent un petit peu ce que c'est que l'ufologie. Hein. Là, notamment, on va axer sur, aussi sur le 5 novembre 90, et puis il y a aussi des panneaux plus généralistes. Il y a tout un cycle de conférences hein, sur les deux jours. Il y a également des stands de vente de livres, hein, et puis notamment le stand de la radio, hein, Radio G, qui sera sur place tout le week-end.
Donc Bénédicte, tu vas tendre ton micro, c'est ça?
Ah oui, je vais tendre mon micro à tous ceux qui veulent bien m'en parler, ou qui y croient, qui n'y croient pas. Moi, voilà, c'était vraiment capter, on va dire, l'essence de l'événement, interviewer aussi les intervenants, ils sont tous émérites, ils ont tous écrit des bouquins, donc ils savent de quoi ils parlent. Donc il y aura voilà des passages de conférences, il y aura des interviews avec les intervenants, mais aussi des témoignages, j'espère, de personnes qui ont vécu des choses ou qui se posent des questions, voilà, histoire de rendre un petit peu la pulsation de ce qui s'est passé ce week-end.
Oui, ne pas oublier, effectivement, c'est que cette manifestation a pour but de rencontrer les témoins et de leur faire part de nos découvertes, de nos recherches, de manière la plus objective, la plus factuelle possible, sans interprétatif.
Et on parle du nucléaire aussi pour cette édition précisément. On garde ça au chaud, et puis on garde au chaud parce qu'on l'a cité plusieurs fois, la date du 5 novembre 1990. On a annoncé des milliers de cas d'ovnis du coup dans le ciel. Donc on va pouvoir en parler dans quelques instants. On fait juste un petit crochet par les charabias d'Aurélia.
Les charabias d'Aurélia.
Les charabias d'Aurélia.
Ça y est, les jours raccourcissent, les feuilles tombent et la grisaille s'abat sur nos têtes accablées par le manque de vitamine D. Et c'est avec l'énergie funeste d'une marmotte prête à hiberner qu'il est temps de nous laisser glisser vers la lente agonie de l'hiver. Alors que faire ce mois-ci? De la fête des morts en veux-tu en voilà. Pour Halloween, sortez vos dentiers sanguinolents et postez-vous dans une petite ruelle bien sombre pour racketter vos petits voisins et leur éviter de développer un diabète de type 2. Pour la Toussaint, l'ambiance feutrée d'un cimetière fleuri de chrysanthèmes vous accueille pour un tête-à-tête avec vos chers macabées, instant hors du temps et loin de la 5G. Pour les mangeurs de tacos qui rêvent du Mexique, la célébration du Día de los Muertos vous permettra de baffrer du pain des morts et des petits crânes sucrés devant Coco et ses braves squelettes bariolés. En tout cas, ne cherchez pas tout de suite à vous emmurer vivant en récitant du Edgar Allan Poe à votre chat noir et célébrons ensemble la venue de la grande faucheuse. Celle qu'on surnomme aussi la blafarde, la camarde, la Carline ou la cinquième compagnie. Mais la mort n'est pas si tragique si on peut prendre le temps de partir comme un petit poulet, tout doucement et dit avec l'accent canadien. Au contraire, on peut aussi brutalement casser sa pipe, clamser, calancher ou passer l'arme à gauche. Ici, en Anjou, il conviendra de dire que l'on va carver ou carpailler. Imaginez littéralement une carpe qui se débat sur la paille. Pour en finir avec classe, on va remercier son boucher ou son boulanger, rendre les clés ou simplement régler la note avant de tirer le rideau. Et pour les plus cyniques, on dévisse le billard, on mange la moquette et on s'aère les tripes. Et lorsque sonne le glas, en hommage au cycle naturel de la finitude, c'est que papy ne va pas tarder à manger les pissenlits par la racine, dépoter son géranium, se tailler un costume en sapin ou se rendre au royaume des taupes. Et si vous êtes toujours vivant, à l'autre bout du cornet, et que vous en avez ras le pompon de m'entendre déblatérer, je vous autorise à me glisser l'expression boulonnaise « Laisse-moi mourir 5 minutes ». Terminons tout de même sur une petite note d'espoir avec ces deux proverbes angevins. Si quelque chose peut ben encore faire une Toussaint, c'est qu'il peut tenir encore un an au moins. Et un peu plus poétique, conserver libre oreille, cœur et main, faille d'où vivre et le mourir serein.
Les charabias d'Aurélia qui parlaient, voilà, de, c'est à propos avec le thème de la saison. On continue dans Topette ce soir, on retourne du côté de Montsoreau.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Bon, il faut absolument, alors on parle des 4e rencontres ufologiques de Montsoreau les 25 et 26 octobre prochains, donc ce week-end. On est avec Frédéric Brochard, le président d'OVNI Anjou, qui organise avec TUFO, Touraine Ufologie, l'événement, et Bénédicte Vallée, qui est animatrice sur Radio G, mais aussi depuis peu, d'ailleurs depuis quand tu as rejoint l'association OVNI Anjou?
Ça fait ma première année là, voilà, du coup je me suis dit tiens, pourquoi
trier
pas
sur le volet, on l'a compris, oui. Tout à l'heure Frédéric nous l'a expliqué, 25 membres de haut vol du coup.
Bah, pour Bénédicte c'était pas compliqué d'accepter. Hein.
Oui, c'était, oui, elle avait,
c'était même une évidence.
Les ponts étaient, c'était étonnant qu'elle n'ait pas encore rejoint, oui, l'association. Alors, on a parlé de l'association, justement, on a parlé avec Sidonie tout à l'heure, on a bien défini tous les termes. Parlons de la thématique et surtout de ce 5 novembre 1990, parce que il en est beaucoup question, c'est le 35e anniversaire, là, qui arrive. Que s'est-il passé? J'ai l'impression qu'il s'est passé, moi je suis né en 92, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc, là.
5 novembre 90, on est un lundi soir en France, et donc des milliers de témoins contactent les différents médias de l'époque, savoir la presse, la télévision et la radio, pour faire part d'observations de phénomènes extraordinaires dans le ciel de France. Et bon, il y a eu également d'autres observations en dehors de la France. Et pour des phénomènes considérable, de taille considérable, avec des caractéristiques vraiment très intrigantes, et pour lequel il n'avait dans un premier temps officiellement pas d'explication.
En France, en Europe, partout dans le monde?
Alors, non. Une partie en Grande-Bretagne, il y a eu l'Allemagne, il y a eu également la Suisse, la Pologne et en Russie. Il y a eu également l'Italie.
Tout à l'heure, on expliquait qu'il y avait plusieurs formes. Il y avait les formes soucoupe, tic-tac. On a eu toute la terminologie des ovnis qu'on pouvait apercevoir dans le ciel. Est-ce que là, il y avait un seul et même type de phénomène constaté?
Il y avait plusieurs types de phénomènes observés, dont parmi le nombre, une majorité malgré tout de phénomènes de forme triangulaire, de grandes dimensions, qui masquaient les étoiles et qui se déplaçaient assez lentement, dans un silence complet, sans trace de propulsion, et qui ont vraiment impacté et marqué grandement les témoins.
T'as une question, Sidonie?
Oui, j'aimerais savoir si, en dehors des témoignages, est-ce qu'on a d'autres preuves de ce phénomène?
Alors, il y a eu des vidéos qui ont été prises et des photographies d'un de ces phénomènes, parce qu'on oui. pense que le phénomène n'était pas isolé, il y avait plusieurs types de phénomènes observés dans un laps de temps entre 18h30 et 20h. Alors, l'explication officielle, il s'agissait de la rentrée atmosphérique d'une plateforme. Une plateforme, c'est un élément de séparation entre deux satellites d'une fusée russe.
Très grosse fusée, quand même, si ça masquait les étoiles.
Surtout que c'était à 150 km de hauteur. Voilà, donc beaucoup de témoins sont restés...
On est extraterrestre ou on est encore dans l'atmosphère et c'est un ovni?
Ah bah là, on est rentré en atmosphérique, on est encore terrestre. Là.
Non, mais ça reste non identifié, ou en tout cas avec cette possibilité de...
Ouais, cette possibilité-là. Après, il y a des gens qui ont ça qui est passé au-dessus, qui ont décrit un truc absolument immense qui a rasé leur maison. Enfin, voilà, donc on a du mal à voir, parce qu'on sait ce que fait une partie de fusée qui passe dans l'atmosphère, en général, de toute façon.
C'est pas si conséquent que ça. On a pu enquêter sur des cas considérables, sur Montreuil-Juigné, où plusieurs témoins nous ont fait part d'une ville au-dessus de la ville. Qui s'est transformé en cours de déplacement. Chalonne-sur-Loire, par exemple, il y a eu un témoin qui a témoigné publiquement, faisant état d'un phénomène ressemblant à un cercueil volant au-dessus de sa tête, hein, de grande dimension. Il a eu peur. D'autres témoins aussi ont fait part de cas sur Saint-Barthélemy, sur Angers. Enfin, disons qu'on a, sans mentir, on a des milliers de documents concernant cette vague d'observation.
Aucun d'entre vous n'a assisté visuellement à ça?
Moi, 90, j'avais 10 ans, donc.
Mais t'aurais pu?
Ouais, si mais à cette heure-là, il y a grande chance que je sois à table. Hein, parce que nous, on a la maison, c'était 19h pile le repas. Donc non, malheureusement, c'est un grand regret.
Moi, je l'ai loupé de très peu. Enfin, un des phénomènes, je les ai loupés de très peu parce qu'en fait, j'ai fait des études aux Beaux-Arts de Nantes. Et donc, ce soir-là, on faisait le monde dans un café, pas loin de la cathédrale. Et j'avais un de mes copains de l'époque qui devait reprendre le train pour aller à Ancenis. Et en remontant pour aller prendre le train, au-dessus de la cathédrale de Nantes, et ça a été attesté par de nombreux témoins, il y avait un grand phénomène triangulaire, stationnaire, au-dessus de la cathédrale de Nantes.
Donc t'étais vraiment pas loin de
je l'ai loupé à quelques minutes.
De visu. Concernant la thématique, du coup, pourquoi avoir choisi cette thématique OVNI et nucléaire à l'occasion du 35e anniversaire de ce 5 novembre 1990 ?
Alors, OVNI nucléaire, parce qu'effectivement, beaucoup de gens en ont parlé il y a 10 ans, hein, concernant la vague d'observation de ces fameux drovnis, parce qu'on appelle ça des drovnis, au-dessus des centrales nucléaires. Également sur le fait qu'il y a eu beaucoup de cas relatés au-dessus des centrales nucléaires, notamment américaines.
Fukushima aussi. Hein.
Fukushima, il y a une actualité qui est très sensible en ce moment concernant des observations de drones, des fameux drovnis. Notamment ceux du New Jersey aux États-Unis l'été dernier, ou pour lequel un certain nombre d'observateurs et de choses observées et filmées ne peuvent s'apparenter à des objets conventionnels, on ne sait pas d'où ça vient, au même titre tout ce qui s'est passé au niveau de la vague en Europe. Là aussi, les Russes ont beau dos, mais tout n'est pas lié aux Russes.
Alors, OVNI, normalement, c'est pas identifié. Drovni, c'est-à-dire qu'on suppose que c'est un drone, mais on n'a pas l'origine, c'est ça?
Non, c'est parce qu'en fait, l'appellation drone est mise quand on sait pas. Maintenant, mais plutôt drone. Donc, on préfère les appeler des drovni, parce que le fait qu'il puisse agir de drone pour un certain nombre n'est pas inconcevable, loin de là.
Déconnant.
Voilà. Mais par contre, pour certains, alors là, on est plus sur l'OVNI.
Est-ce que ce serait un nouveau terme maintenant qui viendrait remplacer OVNI ou pas dans les prochaines années?
Ça commence à venir le terme d'OVNI, hein, au niveau médiatique, quand ils disent on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un drone. Bon, bah pour nous ça reste un OVNI. Donc le terme d'OVNI est en train de prendre toute sa place et de manière légitime.
Oui, bah un peu comme ce qui s'est passé là sur les aéroports de Copenhague il y a un mois et demi là. Donc c'est pareil, ça, on se questionne. Puis d'OVNI, ça, moi je trouve que c'est bien parce que ça met quand même bien en tête l'idée que un OVNI, il n'y a pas forcément un être dedans qui est au pilotage. Ça peut être effectivement quelque chose qui est piloté à distance ou piloté par une conscience, on ne sait pas. Voilà. C'est important aussi de se dire que derrière chaque soucoupe ou tic-tac, il n'y a pas forcément un petit gris au volant derrière. Ça, faut couper le...
Alors, surtout en 2015, il y a eu une grosse vague d'observation au-dessus de toutes les centrales nucléaires de France, hein, avec des phénomènes notamment triangulaires, stationnaires, au-dessus des centrales. Bon, il faut connaître le fait que vous avez une brigade de gendarmerie en permanence qui est là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas récupérer tous les documents.
Pour l'instant. Un jour, ce sera déclassifié.
Je ne sais pas.
Non, très longtemps.
Ça aurait été perdu. En tout cas, s'il y a une inondation, toutes les archives ont été détruites. Et puis, en fait,
J'en profite quand même pour poser la question parce que bon, on parle des drones en ce moment, qui ont bouleversé un petit peu l'actualité, qui peuvent avoir un côté très rationnel où on peut faire un lien très direct et identifier le pourquoi du comment. Je sais qu'en 2022 aussi, il y a Elon Musk avec sa société qui avait lancé tout un tas de choses avec des phénomènes qui ont été vus,
des sortes de trains
lumineux dans le ciel. Ouais. J'en avais vu un. C'est vrai que quand on voit ça. On ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas, et si on n'a pas l'info, on peut vite partir dans l'imaginaire.
Tout à fait, parce qu'effectivement, on voit depuis quelques années, enfin, je dirais 2-3 ans, depuis la manifestation des Starlink et puis d'Elon Musk avec ses fusées, effectivement, des témoins qui nous contactent suite à des observations de fameux trains de satellites. Bon, ils sont de bonne foi, tout à fait, ils ont bien observé quelque chose. Moi, je l'ai vu une seule fois, je peux vous dire effectivement que c'est impressionnant. Bon, pour moi, c'était pas d'origine exogène ou exotique, hein, c'est évident.
Ouais, moi, pareil, je me suis pas dit...
Pas posé la question, mais par contre, les témoins se posent des questions. Faut savoir qu'au départ, même le GEPAN s'était posé la question de savoir ce que ça pouvait bien être.
Alors le GEPAN, faut qu'on le définisse, ça fait 2 fois qu'on l'entend. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux.
Donc ça, c'est en France.
C'est en France.
C'est-à-dire que les pouvoirs publics s'emparent quand même de la question.
Ça dépend du CNES. Hein, voilà.
Alors, un nouveau truc, le CNES.
Centre National d'Études Spatiales.
C'est ça.
Et depuis des années. Et au moment de la vague du 5 novembre 90, c'était le CEPRA qui était l'organisme en chef.
Décidément, beaucoup. Il y a quand même une...
là-dessus. Voilà, c'est ça. C'est que ça n'existe pas, mais il y a quand même une antenne qui est supposée enquêter là-dessus.
Poser la question du est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on essaie de camoufler.
Après, voilà, parce que le GEPAN, ils ont un site internet, il y a plein de cas que vous pouvez aller voir. Vous pouvez taper la commune où vous résidez, vous allez voir s'il y a des cas d'observation qui ont été enregistrés. Et donc, oui, voilà, la façon des fois dont l'information est un peu traitée laisse un petit peu sourire. On se dit est-ce qu'ils enquêtent dessus ou est-ce qu'ils sont là pour faire circuler, il n'y a rien à voir. On est un peu dans cette optique-là aussi. C'est un peu limite, quoi. C'est tangent.
Sidonie, peut-être une dernière question que tu aurais par rapport à ces quatrièmes rencontres ufologiques, parce qu'on arrive à terme de l'émission, donc il va falloir qu'on déblaye maintenant toutes les informations importantes.
Est-ce que cette rencontre, elle est pour tout public, c'est familial, c'est plutôt visé pour les adultes?
Alors, c'est pour tout le monde, hein, effectivement. Bon, les enfants risquent d'être un peu plus s'embêter parce qu'il n'y a pas d'activité ludique pour eux, mais c'est tout public, c'est gratuit, il y a une participation libre, tout le monde peut venir accéder durant toute la manifestation gratuitement.
Ouais, mais se faire une idée sur le phénomène, est-ce que j'y crois pas, ou écouter d'autres histoires, voilà, pourquoi pas en discuter aussi de leurs propres histoires.
C'est un lieu de rencontre et d'échange avant tout.
Oui, de rencontre entre humanoïdes d'abord et potentiellement derrière de...
Ah bah ils sont invités aussi hein, s'ils veulent venir et
Est-ce qu'on aura participer. Du coup des archives aussi de quoi alimenter des interrogations, les
débats? Effectivement, il va être présenté donc, des archives sous forme de PowerPoint lors des conférences. Vous avez des panneaux d'exposition avec des cas anciens, des coupures de presse, hein, enfin des comptes rendus d'enquête. Hein. C'est très, très riche.
Alors on le sait, OVNI en joue, c'est très sélect dans le sens où on prend pas n'importe qui, le débat est très construit, donc on a des personnalités. Mais imaginons qu'on ait envie de rejoindre l'association, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut au moins se renseigner, dialoguer avec toi Frédéric ou Bénédicte ou d'autres personnes?
Le mieux c'est d'aller sur le site, hein, ovnienjoue.com. Vous aurez tout ce qu'il faut comme information.
Voilà, vous pouvez même, il y a un document de pré-inscription. Vous pouvez effectivement, si vous avez envie, soumettre votre candidature. Il n'y a pas de souci. On est toujours prêts à nous accueillir de nouvelles personnes. Voilà, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un d'ouvert et puis quelqu'un qui se pose des questions. Voilà.
Deux dernières questions avant de se quitter. Ces quatrièmes rencontres de l'ufologie de Montsoreau sur le thématique OVNI et nucléaire. Qu'est-ce qu'il faut en retenir?
Un moment de rencontre et de partage autour de l'ufologie, mais autour de l'ufologie factuelle et de terrain.
Et si on doit se quitter en gardant un seul truc en tête concernant justement l'ufologie au sens large, les ovnis, les extraterrestres, ou alors que ce soit les faits, que ce soit les doutes, ou alors que ce soit même l'imaginaire collectif, qu'est-ce qu'il faut retenir?
L'important, c'est de se poser la question et de garder l'esprit ouvert et de se dire que la réalité, c'est peut-être derrière ce que je vois en premier lieu. Il faut toujours, voilà, tout est possible. Donc il faut garder ça en tête.
Moi, je te rejoins. Je dirais que c'est extraordinaire. Une autre réalité se manifeste.
Eh ben merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans Topette ce soir. C'est un petit échantillonnage, hein, de tout ce que représente la thématique. Merci Frédéric d'avoir fait le déplacement.
Merci pour l'invitation.
Merci Bénédicte aussi de le couvrir plus largement, ouais. Puisque Radio G est partenaire de l'événement pour en apprendre davantage au travers de ton émission. Et sur place, donc, avec ce stand où tu pourras tendre ton micro aux personnes qui ont envie de témoigner.
Exactement, il ne faudra pas hésiter à venir me rendre visite.
Merci beaucoup, en tout cas. Et Sidonie, avant de se quitter pour de bon, est-ce que toi, tu as déjà vu des choses dans le ciel qui t'ont interrogé?
J'avais vu le train de lumière justement et j'avais pas eu l'info. Du coup, j'ai été impressionnée la première fois que je l'ai vu.
Mais du coup, t'as eu ta réponse. Donc oui. Là, on est sur un cas. On n'est plus sur. C'est plus un ovni. Du coup, c'est un.
Voilà, c'est purement identifié.
Un ovni.
Par contre, si au fond du jardin, il y a quelque chose de curieux, il faut nous contacter directement parce que là, on n'est plus sur du train de Starlink.
Ouais. Alors moi, vu comment c'est dit, je commencerai par partir en courant et ensuite je vous passerai un petit coup de fil. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans Topette ce soir. Nous, on se retrouve demain avec le CCJC. On se quitte avec Café Chololo. Prenez soin de vous. À demain et Topette.
Chaque tasse de café regorge d'histoires merveilleuses. Découvrez un univers fascinant à travers le partage de l'immense savoir de producteurs rencontrés aux quatre coins du monde par Café Chololo. Depuis la préhistoire, nos ancêtres confectionnaient déjà une sorte de boule énergétique en mélangeant de la graisse animale avec les cerises de café, le fruit de l'arbre dont nous consommons aujourd'hui les graines. À partir de l'an 800, il aurait été préparé en décoction. C'est à partir du 15e siècle au Yémen que l'on voit apparaître les premières caféières, c'est-à-dire les plantations de café. Et c'est l'Empire ottoman qui développe le café sous toutes ses coutures. Ainsi, les émissaires de Soliman Aga se rendent à Paris pour présenter leur culture et leur connaissance de la boisson. Mais une mésentente due à des incompréhensions cocasses conduit à un échec diplomatique. Certains pensent que cet épisode serait à l'origine de l'acte 5 du bourgeois gentilhomme de Molière, la marche pour la cérémonie des Turcs. Pour garder le contrôle de la distribution, les marchands ébouillantent les grains verts. Cependant, les Hollandais, volants, parviennent à se procurer quelques grains. Ces derniers commencent à cultiver le café dans l'Asie du Sud-Est. Tout début 1700, un unique plant en provenance de Java est apporté au jardin botanique d'Amsterdam, qui offrira plus tard quelques pieds à ses voisins européens. Les Britanniques le plantent en Inde, mais voient leurs essais décimés par les maladies. La France fait un test de plantation non concluant dans la campagne de Dijon. Puis, on plante à La Réunion, que l'on appelle alors île de Bourbon. Elle donnera son nom à une variété de café bien fameuse. Vers 1720, l'amiral de Clieux l'amène en Martinique, mais la traversée est plus longue que prévu. Les denrées alimentaires, y compris l'eau, viennent à manquer. Et l'équipage n'apprécie pas que le caféier ait droit à sa ration d'eau pure, alors qu'eux-mêmes n'en ont pas. Victime de l'agitation à bord, un seul des deux pieds parvient à bon port. Mais même sous les tropiques, la multiplication des plants n'est pas aisée. On ne connaissait pas assez la plante, qui est si fragile. Le Brésil, premier producteur mondial depuis 1800, a obtenu ses plants par ruse sentimentale. C'est l'amiral Francisco de Melo, envoyé par le roi du Portugal, qui aurait été séduire la femme du gouverneur de Guyane pour se faire offrir quelques cerises de café. Le café devient déjà un partenaire particulier qui attise les convoitises. Ensuite, c'est l'affreux commerce triangulaire qui va engendrer le déploiement du café. Le temps passe, les lois évoluent trop lentement et parfois ne changent pas les choses.
Le côté culturel et historique a permis l'introduction du fruit dans une note symbolique qui est la symbolique de la maîtrise d'un instrument de torture que le colon maîtrisait à l'époque. Donc on a récupéré cette maîtrise au niveau des enfants particuliers.
Aujourd'hui, il existe plusieurs types de commerce, avec des conséquences directes sur le quotidien de tous les maillons de la chaîne. Il faut protéger le droit à la terre et la justice économique et sociale. Alors, faites le bon choix. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Café Chololo.
Est-ce que je ne crois plus en les autres ? Est-ce pour ça que je marche seul ? Est-ce que je peux devenir mon hôte ? Ou c'est parce que je fuis l'époque ? Malgré les rapports sincères, je donnais beaucoup mais j'étais un seul. Je peux pas m'arrêter de penser que je suis un égotiste. Je crée des projets mais pas pour les autres. Je les inclus mais de part et d'autre. Je suis le centre de tout ce que je fais. Ce qu'il y a à prendre, je le prendrai. Pour souvent celle qui m'a construit.
Est-ce que je fuis ?
Je sais pas si je prends le risque. Si c'est le pain,
si c'est la mort,
si c'est le vent, ou l'horizon
qui nous rassure.
Je suis perdu,
je
reconstruis,
mais je suis pas sûr.
Si je fais du mal,
je fais du mal,
je m'en excuse. Est-ce que je ne crois plus en les autres? Est-ce pour ça que je marche seul?
Quand on marche,
est-ce que je peux devenir mon hôte? Ou c'est parce que je fuis l'époque?
Quand on marche.
Tellement loin, je reviendrai pas chercher hôtel. Partout par la solo vie, c'est bien pour moi, je préfère vivre au cinéma, nos bagages. J'ai rien aux bras vagabonds, sans caméra, partout, partout. Je fais des petits papés, ils changent, c'est mon report. J'arrête le temps, je veux juste être bien. Je rêve souvent d'arrêter le temps, j'ai trop gâché. Tu vas trop loin, peut-être c'est mes mots qui parlent seuls. Je devrais parler qu'avec mes mains, tes signes dans l'air brûlé. Les failles, phrases fatiguées, pourquoi les dire au lieu d'écrire, faudrait danser. Laisse-les parler partout marcher.
Est-ce que je ne crois plus en les autres? Est-ce pour ça que je marche seul? Est-ce que je peux devenir mon hôte? Ou c'est parce que je fuis l'époque? Est-ce que je ne crois plus en les autres? Est-ce pour ça que je marche seul? Est-ce que je peux devenir mon hôte? Ou c'est parce que je fuis l'époque?
Partout marcher.
Je suis comme un bulldozer qui terrasse tout, mais qui se demande comment les autres souffrent. Je me rassure en posant des questions, mais qui ça aide de creuser son trou? C'est pour ma conscience encore une fois. Je veux pas de mal, mais c'est comme ça. J'essaie de faire au mieux, d'être le plus sincère dans les yeux. J'ai pas l'intention de te blesser, mais j'ai pas les codes pour ça. Malgré
les tensions que j'ai tuées. J'ai toujours une main sur moi. Je sais pas comment tu fais pour supporter tout ça. Même moi je ne me soutiens pas. Je sais pas comment tu fais pour supporter tout ça. Même moi je ne me soutiens pas. Même moi je. Est-ce que je ne crois plus en les autres? Est-ce pour ça que je marche seul? Est-ce que je peux devenir mon hôte? Ou c'est parce que je fuis l'époque? Même